Alors bonsoir à tous, merci d'être venus ce soir. Donc, comme vous le savez, on reçoit Nina Bouraoui donc pour son 14e roman qui s'appelle Standard chez Flammarion, contrairement au précédent. Nina Bouraoui qui a obtenu jadis le prix du Livre Inter et le prix Renaudot Naguère. Donc vous avez changé de maison d'édition après la mort de Jean-Marc Roberts, c'était l'année dernière.
Oui.
Pour arriver chez Flammarion. Donc vous avez écrit ce roman que certains journalistes ont qualifié de Houellebecquien, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, ou Bruno Kergen, le héros originaire de Saint-Malo, qui a 35 ans, qui travaille à Paris dans une entreprise de composants électroniques, mène une vie absolument millimétrée. Un jour, il reçoit l'appel de son ami Gilles, un ami d'enfance, qui lui dit que Marlène, qui était la bimbo locale dont Bruno était éperdument amoureux dans son enfance, est revenue au pays. Et ça va être un peu le grain de sable dans les rouages. Et pour Bruno, ça va être l'occasion, ça va être l'ultime chance de lui montrer son amour. Pourtant, et ça va être ma première question, cet événement perturbateur arrive suffisamment tard dans le roman pour que on puisse soupçonner que votre ambition première dans ce roman est de faire le portrait de cet homme avant de raconter cette histoire d'amour. Est-ce que j'ai tort ?
Non, alors c'est pas qu'un portrait, c'est quand même une histoire et c'est même une tragédie. Mais c'est vrai que c'est un roman à la fois sur la liberté et la frustration. La frustration, Marlène arrive en effet assez tard, mais elle est là comme un fantôme dès les premières pages. C'est un fantasme. Elle ne pouvait pas occuper tout le territoire amoureux de Bruno Kergen parce que, par définition, il a décidé de renoncer à tous ses affects, à tous ses sentiments. C'est l'homme de notre société assez monstrueuse, interchangeable, l'ouvrier qu'on exploite et qu'on peut jeter du jour au lendemain. Et c'est un livre aussi sur la liberté. Cet homme a décidé, en effet, de contrôler son destin. Et c'est vrai que c'est un travail totalement nouveau pour moi, même si mon premier roman, La Voyeuse Interdite, était un vrai roman. Mais c'est vrai qu'après, je suis partie sur une quête très autofictionnelle, autobiographique. Et quand j'ai voulu écrire un roman, parce que j'étais arrivée à la fin d'un cycle, il me semblait évident que j'allais décrire un héros de notre époque, ou plutôt un anti-héros. Alors, est-ce qu'on peut contrôler son destin ? Est-ce que la liberté existe vraiment ? C'était aussi le postulat de départ, parce que je me suis reliée à mes premières lectures de jeunesse, parce que je suis beaucoup plus vieille que vous, et j'ai fait des liens avec la métamorphose de Kafka, ça c'est évident, avec La Tache noire au plafond, avec les livres plus philosophiques de Sartre et de Camus, dans le sens, est-ce que dans la vie, on peut s'affranchir de tout, voilà, c'était l'idée de départ. Alors c'est vrai que Marlène, elle arrive comme un astre noir qui va tout absorber, c'était une façon pour moi quand même de témoigner d'un optimisme, hein, parce que je pense que l'amour peut sauver de tout, même si lui va chuter, mais on ne révélera pas la fin. Mais je trouve que voilà, si on est dans une société assez sinistre, l'amour au sens très large, même la bienveillance, peut nous sauver de cette société en crise sociale, identitaire, économique. Et que finalement, la belle histoire de ce livre, c'est qu'un homme quasi rampant va se relever quand on lui annonce le retour de son amour, de son fantasme de jeunesse.
Alors vous avez évoqué la modernité, et c'est vrai que dans ce roman, il y a beaucoup d'éléments qui font référence au monde contemporain. Notamment Bruno appelle des numéros de ce qu'on appelait avant le téléphone rose, qui fait encore un peu partie de la modernité. Est-ce que c'est une de vos préoccupations de témoigner du monde réel d'aujourd'hui ?
Je ne sais pas, parce que quand les livres arrivent, on ne sait pas expliquer pourquoi ils arrivent. C'est vrai que quand j'ai écrit ce livre, j'étais dans une période je dirais de solitude et de désarroi, parce que j'arrivais à la fin d'un cycle d'écriture et surtout je n'arrivais plus du tout à écrire quand j'ai appris la maladie de Jean-Marc. Et je le dis un peu plus souvent maintenant, parce que j'ai beaucoup parlé de ce livre, ça fait 3 mois que j'en parle et ce n'est pas livré un secret d'une grande intimité, mais c'est vrai que Jean-Marc Roberts, c'était quelqu'un qui liait beaucoup plus que certains éditeurs, peut-être parfois un peu trop avec ses auteurs. Et on écrivait aussi pour lui et on formait un drôle de couple, chacun d'entre nous. Il nous faisait croire qu'on était toujours le préféré, mais c'était très agréable parce qu'il le faisait très bien. Et quand j'ai appris que la maladie était en train de l'emporter, et ben je pense que je ne savais plus à qui remettre et pour qui écrire. Et c'est vrai que j'étais pendant un an de grand vide absolu. Et puis aussi, c'est vrai que je suis vraiment dans le monde. Un écrivain, on a toujours l'impression qu'il est à part, qu'il vit en vase clos, qu'il est hyper privilégié ou totalement asocial. Moi, pas du tout. Enfin, je suis dans la ville, j'écoute beaucoup les informations. Je suis très, très à l'écoute du monde parce que déjà, j'ai une double culture. Je suis mi-algérienne et mi-française. Et ce qui m'intéresse, au-delà de mon petit, au-delà de mon petit quartier parisien, ça m'intéresse. Est-ce que je voulais témoigner, je n'ai pas cette prétention, mais en tous les cas, est-ce que je voulais parler du monde dans lequel je vis et qui souvent m'angoisse parce qu'à côté de ça, pendant l'écriture de ce livre, il se passait autre chose socialement en France. Il y avait des gens qui défilaient dans la rue contre les droits d'autres personnes. Et je trouvais ça assez hallucinant, ça m'a choquée. Je pensais qu'aujourd'hui, en France, on était un petit peu plus... j'aime pas le mot moderne, mais est-ce que c'est moderne d'accepter la liberté sexuelle, amoureuse des autres? C'est moderne, oui, voilà, je pensais qu'on était un peu plus moderne. Et c'est vrai que ça m'a peinée, ça m'a fait peur. Et si moi, qui suis quand même assez optimiste et assez idéaliste, j'ai pu restituer la société telle qu'elle est décrite dans Standard, je me dis que c'est la société en effet dans laquelle nous vivons ne va pas très bien. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est écrire des histoires. Et Bruno Kergen n'est pas l'histoire de tous les travailleurs, n'est pas l'histoire de tous les invisibles, n'est pas l'histoire de tous les hommes, mais c'est l'histoire d'un homme. Je suis rentrée dans sa boîte crânienne et je suis devenue Bruno, mais je suis devenue aussi Marlène, je suis devenue aussi Gilles, je suis devenue aussi Bruno Levince, parce que c'est aussi un livre sur... sur l'entreprise et sur les travailleurs dans le bon sens du terme, qui prennent les transports en commun pendant des heures et des heures, qui viennent travailler à Paris, qui rentrent dans leur banlieue parfois sinistre, dans ces endroits un peu, c'est no man's land où on a entassé les gens parce qu'on n'a plus envie de les voir, où il y a ces sortes de poches de violence, et c'est sans aucune démagogie que je dis ça, c'est plutôt avec beaucoup d'affection et de tendresse. Et finalement, même si Standard n'est pas un livre auto-fictionnel, il reprend tous mes thèmes, la différence, l'exclusion, la fragilité, la solitude.
Oui, mais quand vous dites que vous êtes quand même à l'écoute du monde contemporain, c'est pas anodin, parce qu'il y a quand même... beaucoup d'auteurs, je pense, qui vivent dans une espèce de tour d'ivoire, pas du tout perméable au monde moderne et à ce qui se passe. Donc, quelque part, vous avez été influencé, enfin, l'époque a agi de manière un peu diffuse sur ce livre.
Ah oui, complètement. Disons que c'était pas totalement conscient, c'est-à-dire je ne me suis pas réveillée un matin, je ne me suis pas dit ça y est, je vais être un auteur sociétal et tout d'un coup, parce que finalement je ne faisais pas vraiment l'autofiction. C'est ça aussi le truc, c'est que je suis partie de moi pour soulever des problématiques dans mes autres livres, justement sur l'identité amoureuse, sexuelle, nationale, culturelle, mais je m'éloignais de moi en fait. Je pense que ça tendait à plus d'universalité que la simple autofiction qui se veut en souci de vérité. Et je respecte, hein, je ne juge pas du tout. Mais c'est vrai que oui, la société, je l'absorbe. Je n'ai pas beaucoup de parois parce que je suis une artiste et que je n'ai pas beaucoup de défense. Et que les livres servent à ça, à faire circuler une angoisse qu'on recueille. Alors, je ne crois pas du tout en l'écriture thérapie. D'ailleurs, ça me fait un peu vomir. Je ne supporte pas cette expression. Mais c'est vrai que nous sommes des témoins un peu... Moi, j'aime pas, je suis pas une révolutionnaire, je suis pas une intellectuelle, j'aime pas afficher mes idées politiques, je suis quelqu'un de plutôt très discret, je me sens vraiment comme une artiste. Et c'est pour ça que je dis, et c'est vrai qu'on a souvent comparé ce livre à Houellebecq, mais je pense que c'était une sorte de réflexe inconscient parce que nous partageons désormais le même éditeur, mais pour moi, ça n'a pas grand-chose à voir, oui, si ce n'est que je parle de quelqu'un qui est dans une entreprise et qui vit dans une banlieue, mais il n'y a pas du tout de cynisme de ma part, il n'y a pas du tout de complaisance. Il y a quand même un peu d'humour, j'espère, dans les dialogues avec Gilou, parce que c'est aussi un livre sur l'alcool et sur l'amitié virile, qui se permet des dialogues un peu misogynes et crus. Voilà, moi, ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est tout d'un coup, j'ai cassé l'esthétisme systématique que j'avais avant dans mes autres livres, qui étaient plus poétiques, et je me suis octroyé le droit d'être de temps en temps vulgaire. J'ai adoré ça. Voilà, parler à la place d'un homme, c'était génial. Parler à la place d'une garce, c'était génial. Et je trouve que, je pense que dans tout travail artistique, il y a plusieurs phases, comme pour un peintre, et que s'ouvre maintenant une nouvelle phase pour moi, beaucoup plus romanesque, beaucoup plus réelle. Et j'espère toujours avec cette écriture quand même, parce que faire simple, c'est difficile. Et dans ce livre, je pense que chaque mot est à sa place. Enfin, j'y ai beaucoup travaillé et j'ai essayé de quand même d'aller chercher de la poésie dans le lugubre, dans le sinistre, notamment dans le décor en Bretagne avec la mer. Alors même si elle est un peu noire, cette Bretagne, parce que tout est un peu noir quand Bruno Kerjean se penche sur le monde. Mais j'ai récupéré un décor que je connaissais bien, qui est la Bretagne.
Mais alors, vous dites que vous ne vous levez pas un matin en vous disant « je vais faire ça », mais alors du coup, comment vous vous arrêtez sur un sujet ? C'est-à-dire, vous vous dites « ça va être ça et pas un autre ». Est-ce que c'est une image,
Pour ce livre, je ne sais pas. Est-ce que j'avais accumulé en effet beaucoup d'images, beaucoup d'informations, une période un peu étrange de ma vie où je me sentais, dans un désarroi assez spécial. Je pensais que je n'avais plus rien à dire, que je n'arriverais plus jamais à écrire, que j'avais fait mon chemin, que j'avais déjà écrit 13 livres, j'avais eu 2 beaux prix. Je me suis dit, ben voilà, c'est comme ça, c'est fini, c'est assez horrible. Et puis, l'idée est venue finalement en écrivant. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai commencé à écrire 15 pages sur ce personnage qui est a priori extrêmement éloigné de moi, 35 ans, travaillant dans une entreprise de composants électroniques, ayant renoncé au bonheur, à la frivolité, à l'allégresse, aux sentiments, ce qui ne me ressemble pas beaucoup. Et puis, Bruno m'a épousée et je l'ai épousée. C'est très étrange et on sait très bien quand on écrit, il y a une part de mystère. Moi, je me suis toujours dit qu'il y avait 2 mondes qui se côtoyaient et que tout d'un coup, un autre monde s'ouvre pendant l'écriture. Il y a une porte qui s'ouvre. Alors, on appelle ça soit la grâce, soit la transcendance, soit la transfiguration. Je ne sais pas, mais c'est quelque chose de très spécial que vous devez connaître puisque vous êtes vous aussi romancier. Et je crois que les choses arrivent malgré nous. Alors, est-ce qu'elles sont inconscientes? Peut-être. Et puis, je suis devenue vraiment de plus en plus une romancière. C'est vrai que j'ai commencé très jeune. Et quand on est très jeune et qu'on a du succès très jeune, on développe une sorte de syndrome de l'imposture. Mais avec ce livre, c'est le 14e, et je me suis dit, voilà, c'est bon, je pense que je suis une romancière. Je peux quand même avoir un petit peu confiance maintenant.
Alors, vous venez de parler de la manière dont, en se penchant sur le monde, Bruno, donc le héros, voit tout de manière très noire. Et c'est ça qui est aussi intéressant dans ce livre, c'est que malgré un récit à la troisième personne, donc avec un narrateur externe, c'est quand même le regard de Bruno qui va conditionner toute l'atmosphère.
Oui, parce qu'il est, c'est quelqu'un qui est un pessimiste. C'est vraiment un roman sur la médiocrité. C'est terrible à dire parce que moi je suis attachée à cet homme parce qu'à un moment donné il se relève, il change de vêtements, de coiffure, il fait du sport. Tout d'un coup, l'amour le happe, lui qui semblait déserté. Par l'amour, mais c'est vrai que c'est un homme qui a renoncé, c'est un invisible, c'est l'homme parmi la foule, mais il représente aussi toutes mes parts les plus noires et toutes les parts les plus noires de tout le monde. Je crois qu'on a tous peur de la précarité, du vide, du gouffre, manquer d'argent, manquer de désir, manquer d'amour, manquer du regard de l'autre. Je trouve que c'est ça aussi notre société aujourd'hui. Quand on est dans une foule, on a l'impression qu'il suffirait de tendre la main pour avoir une histoire avec l'autre, mais personne ne le fait. Et d'ailleurs, dans une foule, quand on vous demande votre chemin, le premier réflexe, c'est de sursauter. On est habitué, je trouve, et c'est terrible, à la peur de l'autre, à la peur de la différence. Et Bruno, c'est vraiment le produit de cette société monstre qui, en effet, voit tout en noir et se complaît dans la médiocrité parce qu'il a du talent, mais il ne veut pas, il ne veut pas progresser. Quand on lui propose, quand son supérieur lui propose une promotion, il ne veut pas. Il ne veut pas évoluer, il ne veut pas se faire remarquer. C'est un homme, c'est l'homme gris par excellence. Et justement, la performance littéraire, c'était de l'incarner, qu'il existe, qu'on s'y attache. Alors, ce livre fait l'effet un peu du, c'est ce que j'ai tendance à dire, du test du psychiatre, la tache d'encre, qu'est-ce que vous voyez ? Et Standard, en fait, révèle vraiment l'état psychologique dans lequel on est. Qu'on soit amoureux ou pas, au chômage ou pas au chômage, une femme, un homme, chacun a son interprétation, chacun continue la fin à sa façon. Si on est idéaliste, on le voit se relever. Si on est plus pessimiste, on voit une catastrophe qui est suggérée. Donc voilà, c'est très rigolo parce que l'écriture, comme la lecture, doit être une expérience sensorielle. Et ce livre est dérangeant. Et il a dérangé, il a énervé. Mais moi, c'est ça que j'aime, d'écrire les méandres de l'âme humaine. C'est ça qui m'intéresse depuis que j'écris, c'est-à-dire depuis l'âge de 24 ans. J'en ai 46 aujourd'hui.
Oui, alors vous parlez du test de Rorschach. Et justement, je voulais vous demander c'était important, à quel point c'était important toutes ces névroses qu'il a, parce que donc quand son père meurt, il est assez étrangement excité. En chaque femme, il voit sa mère, et puis on sent que le réel l'entrave en plein d'endroits. Il est très effrayé par la nourriture qui vient du sol. Il veut que de la nourriture totalement lyophilisée sous vide. À quel point en fait son psychisme le bloque dans la vie quotidienne.
Le truc aussi, c'était est-ce qu'on peut échapper à son milieu social ? Est-ce qu'on peut échapper à son histoire personnelle, à l'histoire de ses parents ? Ses parents tenaient un bar-tabac dans un petit bourg près de Saint-Malo. J'aimais bien aussi la confrontation province-capitale avec tous les clichés qu'il peut y avoir. Les provinciaux vers les Parisiens, les Parisiens vers les provinciaux. Et justement, lui monte à Paris, non pas pour réussir, mais pour être encore plus anonyme. Et d'ailleurs, c'est un décentré. Il n'est pas à Paris, il est en dehors de Paris. Il n'est pas vraiment à Vitry, il est en dehors de Vitry. Et c'est quelqu'un qui est toujours à côté des choses, comme à côté de lui-même. Alors, il n'aime pas la nourriture fraîche, il aime tout ce qui est sous vide. C'est un petit garçon qui a peur des femmes, parce que le centre névralgique du livre, c'est ça, c'est la peur des femmes, la peur des odeurs, la peur du corps. Sa mère est quelqu'un qui cuisine beaucoup. Et en fait, une fois de plus, voilà, c'est un roman sur la liberté. Est-ce qu'on peut échapper à son milieu social ? Est-ce qu'on peut construire autre chose ? Est-ce que la vie, finalement, n'est pas une quête absolue d'affranchissement qu'on ne réussit pas toujours, parce que c'est compliqué, c'est difficile. Et pour Bruno, c'est encore plus compliqué, c'est plus difficile. Mais il a une dimension aussi de science-fiction et d'épouvante. Par exemple, la scène du bateau n'est pas très loin de la scène de Patricia Highsmith dans Plein Soleil, enfin l'adaptation avec Alain Delon et Maurice René. Et il y a quelque chose, ce livre, moi je le voulais aussi comme un livre qui fait peur. C'est-à-dire qu'à chaque fois, comme dans un film d'épouvante, il ne se passe pas grand-chose, mais on est toujours sous tension. On est dans un couloir noir, personne ne vous attrape dans le dos, mais on a toujours l'impression qu'une main va vous attraper dans le dos. Et c'était ça aussi. Moi, je me dis toujours que les livres ont un silence assez pesant. Une chanson va droit au cœur. L'image, au cinéma, on est très vite bouleversé, très vite ému, parfois même manipulé. Dans un livre, c'est difficile, les mots ont ce silence, il y a quelque chose de plat, de sec. C'est difficile une ambiance et c'était tout l'enjeu du livre. En effet, ce type qui est totalement névrosé, comment il va nous toucher et comment surtout il va entrer dans nos propres névroses, parce que finalement c'est vrai on se dit il est horrible, il est pas aimable, on n'a pas envie de le rencontrer au coin d'un bois, on n'a pas envie que ce soit notre voisin de palier, on n'a pas envie que ce soit notre frère, on n'a pas jamais il sera notre amant évidemment, mais bizarrement il a quelque chose, il a nos gouffres, il a nos vertiges. C'est un livre aussi sur la condition humaine, sur Christine Angot avait ce très beau titre qui s'appelait L'usage de la vie. Je trouve qu'il s'accorde parfaitement à ce qu'est Bruno Kergen. se lever, se nourrir, travailler pour se nourrir, se coucher. Alors bien sûr que c'est sinistre. Et évidemment que dans la vraie vie, heureusement, on a des poches de bonheur, on a des poches heureuses. Mais notre société est de plus en plus compliquée et je pense que les gens sont de plus en plus tracassés.
Alors moi, je vous ai vu à la Grande Librairie, je pense que c'est peut-être le cas de, d'autres personnes dans cette salle. Et vous avez un peu parlé de cette vision du bonheur qu'on lui présente à Bruno, cette vision un peu exagérée, cette représentation du bonheur qui passe aussi notamment par des images d'une sorte de grande vie qu'il ne peut pas mener. Ça passe aussi par la pornographie. Est-ce que c'est ça qui l'inhibe, qui le rend malheureux, c'est d'avoir accès visuellement à cette vie qui ne pourra pas toucher?
Oui, de toute façon, je pense qu'on est tous bombardés par le culte du bonheur, le culte de la performance amoureuse, sexuelle, sociale, le culte de la réussite, le culte de l'argent. C'est très écrasant. C'est très dur. Enfin, moi, il me semble que voilà, c'est alors pour Bruno, c'est encore plus dur. Et finalement, il est héroïque parce que il résiste à tout ça. Ça le rend malheureux, mais il s'est fait une raison parce que c'est un homme qui a eu beaucoup de défaites amoureuses. Enfin, beaucoup. Il n'en a pas eu beaucoup justement. Il n'a pas connu beaucoup de femmes, mais il se positionne toujours dans la défaite. Et c'est aussi une critique de notre société. On ne peut pas être différent. On ne peut pas être singulier. C'est compliqué, sa singularité, elle est difficile à vivre. Et dans ce sens, il est quand même un héros. Il n'est pas si anti-héros que ça. C'est quelqu'un qui a renoncé. Et puis tout d'un coup, il ne va plus renoncer, puisque Marlène va arriver, va surgir, il va se relever. Il va y croire tout en sachant qu'il se trompe peut-être, mais il va perdurer dans le mensonge. Et c'était aussi une critique de notre société sur l'argent, l'économie, comment l'économie peut interférer dans les liens amoureux, dans les liens sexuels, puisque son lien avec Marlène, ça va être l'argent. Elle a très vite compris que c'était quelqu'un de plutôt gentil, plutôt doux. Il n'est pas méchant, Bruno, du tout. Et elle va se dire, voilà, je peux lui soutirer de l'argent. Et puis Marlène, c'est la femme toxique, comme on a tous croisé une fois dans sa vie, hélas, dont on peut tomber fou amoureux ou pas du tout. Hein. Il y a deux possibilités, la seconde étant la meilleure. Et la femme vénale, un peu voilà, la Jenny de l'été meurtrier, en moins folle, parce que c'est exactement ses armes. C'est en effet la bimbo d'un bourg qui avait des idées, des rêves de gloire, qui va descendre dans le sud et puis qui va revenir quand même dans le salon de coiffure chez sa mère. Et qui a tout raté, qui va comme ça tisser sa toile autour de Bruno. Et Bruno, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des crédits, parce que c'est ça notre société aussi. C'est acculer les gens qui, voilà, quand moins on a d'argent, souvent, plus on vous entraîne vers ce gouffre-là. Et ça, moi, ça me sidère, ça me fascine, ça me révolte. Donc à lui tout seul, en effet, quand je dis que c'est... Il y a 50 ans, on aurait dit oui, c'est un héros un peu de science-fiction, pardon, etc. Mais à lui seul, il regroupe, il n'y a pas encore très longtemps, on voit dans l'usine Goodyear des ouvriers qui prennent en otage un patron parce qu'ils vont être virés comme ça sans préavis. Standard, Bruno, c'est exactement ce qui va lui arriver dans son entreprise. Et les deux manipulations arrivent au même moment. Quand il se fait manipuler par Marlène, son chef, son superviseur, va aussi le manipuler juste pour une histoire de paramètres et de changement de coiffure. Alors c'est vrai, voilà, je disais que je pensais pas devenir un écrivain qui allait tant parler de la société que cela, ça s'est imposé à moi parce que je crois que c'est, hélas, une vérité de tous les jours, sans exagérer.
Alors, vous avez mentionné la singularité et c'est assez étonnant parce que, enfin, c'est pas étonnant justement, je crois que c'est une des clés du roman, c'est-à-dire les personnages, tout du moins Gilles et et Bruno, ont cette idée de se dire mais on est remplaçable en fait, on est personne. Et Bruno a d'ailleurs la crainte que son ami Gilles le remplace très facilement à Saint-Malo. Il dit, je sais plus, j'avais noté, mais c'est personne n'est unique, c'est ça. Et en fait, ce que se demande Bruno, c'est est-ce que, au-delà de chercher sa propre identité, il se dit mais est-ce que j'en ai une?
Oui, parce qu'il n'est pas aimé. Et c'est ça aussi, l'amour des autres, l'amour amoureux ou l'amour beaucoup plus large, finalement donne une identité. Je crois que quand on n'est pas aimé, on n'existe pas. C'est une phrase un petit peu dure, mais c'est ce que lui ressent. Et c'est plus que le désir, c'est vraiment l'amour, être considéré. Lui pensait être aimé par Charles Vin, son superviseur, a peur de Gilles parce qu'il sent que Gilles est aussi un rival par rapport à Marlène, et il n'est pas sûr de cette amitié. Alors il y a un personnage, c'est celui de Sylvie, où là, tout d'un coup, Bruno s'humanise. Sylvie est malade, là aussi, quand on est dans une entreprise, on a un cancer, on n'a pas le droit d'avoir un cancer. Donc on dégage, et puis on ne sait pas ce qu'on devient. Et d'ailleurs, il ne saura pas, et puis il l'apprendra de façon très violente, ce qu'est devenu Sylvie. Et ce personnage de Sylvie, tout d'un coup, il a envie de lui écrire, il a envie de lui envoyer des textos, il a envie de prendre de ses nouvelles. Donc il n'est pas irrécupérable. C'est la société qui lui a tourné le dos, c'est la société qui ne l'aime pas. Lui, il aurait été prêt à aimer. Il a ce potentiel-là, Bruno.
Alors, vous avez donc dans ce livre qui est un homme qui est vraiment au premier degré, qui est extrêmement sensuel. Vous dites à un moment qu'il n'a pas d'espace à l'intérieur de lui-même. C'est-à-dire qu'il est tout d'un bloc. Et est-ce qu'il lui manque justement ce recul qui serait le début d'une espèce de prise de conscience? Parce que là, on le voit très naïf vis-à-vis notamment de Marlène.
Oui, il est immature. Alors, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est que son seul territoire où il va se sentir vivant, c'est la sexualité. Alors, c'est une sexualité qui n'est pas propre, hein, qui est en effet solitaire, pulsionnelle, sauvage. Mais là, il existe quand même. Il se passe quelque chose. C'est un homme qui a beaucoup de désir en lui. Et ça, c'était pour moi intéressant à dire, à faire, risqué, mais je pense que je l'ai quand même pas mal fait, et de parler de cette sexualité-là. Moi, je suis une femme, mais c'était assez envoûtant parce que, comme je disais tout à l'heure, je suis vraiment devenue Bruno, et souvent, justement, dans ces dialogues un peu pornographiques, etc., j'essayais de ne jamais être obscène. C'est très dur quand on écrit de ne pas être obscène. D'être cru, c'est quelque chose, mais essayer de ne pas être obscène, c'en est une autre. Et je ne me souviens plus la question.
Non, mais du coup, je me demandais si implicitement, il n'y avait pas l'idée qu'on n'avait aucune place pour les gens dans notre société, pour les gens qui sont un peu bruts, sans calcul. On le voit face à Marlène, qui, elle, est une fille beaucoup plus complexe, face à son employeur, qui est aussi un peu louvoyant. Il y a un dialogue un peu kafkaïen entre les deux. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous nous racontiez un peu quand Bruno se rase le crâne, ce qui lui arrive à son bureau.
Alors, quand Bruno apprend le retour de Marlène, il se rase la tête parce qu'il commence à perdre ses cheveux. Il se rase la tête, c'est un acte fondamental de changement, de virilité aussi. Et quelques semaines avant, son entreprise est en train de se restructurer, mais on ne le dit pas. On ne le dit pas trop aux salariés. Il y a un plan qui est en marche. Les salariés vont être convoqués. Il va y avoir un discours sur cette boîte de composants électroniques qui commence à être menacée par l'Empire chinois, qui travaille beaucoup plus vite et surtout à moindre coût, et qui n'hésite pas à employer des enfants parce qu'ils ont des petites mains et que pour les composants électroniques, c'est bien pratique. On leur vante l'excellence française. On leur dit que leur entreprise est une grande famille. En fait, on les endort un peu. Et puis Bruno sent qu'il y a quelque chose, mais il n'en est pas sûr. Et puis lorsqu'il se rase la tête, il va être convoqué par Charles Vince, son supérieur. Il pense que c'est un allié parce que Charles Vince l'aime bien, est content de son travail, trouve que Bruno a du talent. Et finalement, il va lui tendre un piège, va lui demander pourquoi cet homme en 10 ans qui ne s'est pas lié avec les autres employés, à part Sylvie, qui a toujours le même blouson, qui travaille toujours à son box, qui ne va pas déjeuner avec les autres, qui ne profite pas du comité d'entreprise, qui ne va pas en voyage avec les autres salariés. Pourquoi cet homme, tout d'un coup, va se raser la tête? Lui, il le voit comme un acte menaçant, alors que Bruno le fait pour Marlène, pour lui, et puis il est en effet... Il est naïf, et je crois que notre société, hélas, Alors, je ne veux pas être manichéenne, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours, il y aura toujours les forts et les faibles, et que Bruno fait partie des plus faibles parce qu'il est immature, parce qu'en effet, il a cette grande naïveté, une grande violence contre lui-même, mais jamais contre les autres. Et ça, je voulais absolument, parce qu'il y avait la tentation de faire que Bruno soit un violeur, soit un psychopathe, soit un serial killer. Il ne vote même pas pour le Front National parce que ce serait une passion déjà d'être extrémiste. Donc il ne vote pas. Il ne s'insère pas dans... Justement, il ne se sent pas citoyen. Il ne se sent pas patriote. Il ne se sent pas soldat. Et donc cette manipulation va faire que Bruno va être regardé parce que c'est un bon élément mais qu'il ne veut pas évoluer. Donc il est étrange. Donc c'est une menace pour l'entreprise. Donc on va tout d'un coup le pousser vers la sortie, mais il ne s'en rend pas compte. On va déplacer son box, on va lui donner de moins en moins de matériel pour travailler. Et puis tout d'un coup, il aura moins de travail. Donc Charles Vince lui dira, vous pouvez partir plus tôt, mais pointez quand même pour qu'il y ait quand même une trace de ses départs plus tôt. Alors lui, il est content parce que comme ça, il va à la salle de gym, il se fait un corps pour Marlène. Il a tout d'un coup une nouvelle liberté, une nouvelle... voilà, quelque chose qu'il ne connaissait pas avant. Et tout d'un coup, il commence un petit peu à s'aimer. Et finalement, oui, c'est un immense piège parce que je ne vais pas raconter parce que c'est à la fin et que tout va l'acculer et qu'on l'a finement conduit vers la sortie tout en l'accusant d'avoir déserté, alors que pas du tout, il n'a pas du tout déserté.
Et est-ce que ce manque d'ambition qu'il affiche quand on lui propose quand on lui propose de changer de poste pour avoir un poste plus élevé, il refuse, est-ce que cette sorte de passivité n'est pas aussi quelque chose qui énerve les autres, et notamment dans l'entreprise on ne comprend pas que quelqu'un puisse ne pas être ambitieux et se satisfasse de ce qu'il a. Parce que Bruno, quelque part, il a un côté bonheur comme on l'entendait dans l'Antiquité, c'est-à-dire l'absence de passion. Il est très égal, quoi.
Oui, c'est exactement ça, complètement. Évidemment, alors il devient étrange, on ne comprend pas, une fois de plus, voilà. Puisqu'on est dans la performance, toujours être meilleur. Alors lui, il donne ce qu'on lui demande, il le donne, il le fait très bien. Mais en effet, il ne veut pas prendre le pouvoir, jamais. Ça ne l'intéresse pas. Ce n'est pas un homme de pouvoir, ça ne le fascine pas. Il n'aime pas tant l'argent que ça. Lui, il est content, il a un petit appartement à Vitry, il a de quoi manger, de quoi voyager de temps en temps, aller voir sa mère à Saint-Servant. Et c'est un livre vraiment sur... à la fois la médiocrité et le repli sur soi. Moi, je trouve que la chose la plus terrible dans la vie, c'est de perdre ses rêves, de perdre espoir. Mais la société ne lui offre aucun rêve et aucun espoir, Bruno. Donc, il se contente de sa mini-place. Comme il dit, j'ai peut-être pas la meilleure des places, mais je n'ai pas la pire des places. Parce que finalement, ce qui le guette, c'est la rue. C'est ça le truc. Et c'est ça aussi notre époque, cette crise économique dont on nous rabâche les oreilles, mais qui existe. Il n'y a qu'à voir, il n'y a qu'à regarder, il n'y a qu'à entendre. Tous les gens qui perdent leur emploi, il n'y a qu'à regarder dans la rue. La montée des violences, c'est ça aussi. C'est cette précarité qui est de plus en plus palpable. Donc on a peur de l'autre, on a peur de celui qui est différent, on a peur de celui qui ne nous ressemble pas. Donc Bruno, il a une mini place et c'est ça ce qui est terrifiant, c'est qu'il se contente de ça. Il ne veut pas le perdre. Alors au sein de l'entreprise, en effet, il devient louche, il devient bizarre, il devient étrange. Et on en revient à la singularité. Est-ce qu'aujourd'hui, encore en 2014, on peut être quelqu'un de différent ? J'en doute, c'est compliqué, il faut faire de la résistance.
Alors Bruno, ce qui est assez étonnant, c'est que contrairement à ses collègues qui attendent le week-end avec impatience, lui, il s'en fout un peu parce que le week-end, il se retrouve avec lui-même. Et vous dites, alors il n'a aucun loisir, et vous dites... Sa cage était au sein de son existence. Et alors ça m'a rappelé une phrase de Paul Valéry qui dit « L'homme est animal enfermé à l'extérieur de sa cage, il s'agite hors de soi. » Est-ce que la cage de Bruno, c'est une cage intérieure en fait ?
Totalement, il est verrouillé de l'intérieur, Bruno. Et il a même perdu la clé. Est-ce qu'il l'a déjà possédé ? Je ne sais pas. De temps en temps, il y a des flashs sur son enfance, ce qui explique aussi. Il a eu un père un peu violent. Il n'a plus les codes pour les femmes. Son père était macho, lui, il ne l'est pas vraiment. Et puis, il ne sait pas comment faire une femme qui a pris le pouvoir. Comment la séduire? Il ne sait pas. Son père ne lui a pas dit, parce que ça ne se passait pas comme ça. Hein. Son père trompait sa mère. Voilà. Il y a des souvenirs de grande solitude quand il est enfant, à Saint-Servan. Il est tout seul. Alors si, il lit les aventures du lieutenant Blueberry, parce qu'il rêve à l'Amérique. L'Amérique faisait encore rêver. Il est assez anachronique. Il est assez en retard sur son temps. C'est un homme de 35 ans. Et c'est là où je vois quand même que moi, je suis passée par là, parce que j'en ai 10 de plus et je devais quand même faire attention à mes références, même de disques, de chansons. Voilà, parfois, on a quand même 10 ans d'écart avec Bruno, donc ça, il fallait être vigilante. Mais je crois que oui, il est totalement emprisonné dans son corps, dans ses certitudes, dans son renoncement. Je trouvais ça très intéressant, quelqu'un qui a renoncé à tout. C'est rare, c'est incroyable. Et puis finalement, on se rend compte que Bruno n'est pas si standard que ça. Pas du tout, même. Il est très habité, il est très incarné, il est très perturbé, il est très... Et une fois de plus, il a tous nos vertiges, il a toutes nos peurs. Moi, souvent, je me dis, c'est incroyable, nous sommes en vie. Et nous oublions que nous sommes mortels. C'est ça, d'être en vie. C'est tous les jours, si on devait se réveiller et se dire « Ah bah oui, un jour sera fini », c'est épouvantable. Alors, quand on est un peu déprimé, on y pense. Et c'est ça, la beauté de la vie. C'est de continuer à vivre, de continuer à aimer, de continuer à travailler, de continuer à pleurer, peut-être aussi d'avoir des chagrins d'amour aussi. Mais on est vivant sans penser quand même à la finalité qui plane au-dessus de nous tous. Et je crois que Bruno, lui, il l'affronte. C'est tout est frontal, la violence de la vie, la violence de l'existence, la violence de sa solitude, la violence du manque d'amour, la violence du manque de regard. Il prend tout avec finalement une certaine forme de panache. Alors un panache qui n'appartient qu'à lui, qui est loin d'une autre, mais je le trouve assez, assez fort et intéressant et attachant pour ça.
Mais il y a un panache du renoncement, et pour continuer sur la cuistrerie, je vais lire un passage de Suran, parce que ça m'a fait penser à une anecdote que j'avais lue dans Suran, ce renoncement de Bruno, et donc c'est très court. Suran rapporte une anecdote. Il dit que Flaubert, devant le Nil et les pyramides pendant son voyage, ne songeait, suivant un témoin, qu'à la Normandie, qu'aux mœurs et aux paysages de la future Madame Bovary. Rien ne semblait exister pour lui en dehors d'elle. Imaginer, c'est se restreindre, c'est exclure. Sans une capacité démesurée de refus, nul projet, nulle œuvre, nul moyen de réaliser quoi que ce soit. Et du coup, quand j'ai vu ce renoncement de Bruno, je me suis dit, mais est-ce que ça pourrait pas être le terreau pour quelque chose de grand, pour une activité hautement investie, comme la religion ou un loisir très 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 très, très puissant? Et on se demande où va toute cette énergie qu'il garde en lui.
Alors, de temps en temps, il la libère sexuellement, c'est assez terrible. Et puis, il va les libérer dans le fantasme de Marlène. Tout d'un coup, c'est quelqu'un qui est habité, qui vibre, qui... Alors, on se dit, waouh, c'est génial, c'est incroyable, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un moment de grâce, un moment de bascule dans le livre, certes, qui ne va pas durer très longtemps, mais il y a cette grâce que l'on perçoit quand même et qui nous réconcilie avec la nature humaine de cet homme-là, qui finalement n'a pas tant renoncé. Et je pense que le message du livre, et c'est là où il me ressemble quand même, c'est que l'amour nous sauve de tout. Alors c'est très simpliste, c'est très naïf, mais je ne pense pas que je l'aurais dit il y a 20 ou 30 ans, mais aujourd'hui, en 2014, je le ressens très fort aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, avec tout ce qui se passe, et on pensait être sauvé de certaines choses, en fait, pas du tout. Franchement, la bienveillance, la douceur, l'écoute de celui qui est différent, de celui qui n'est pas comme moi, moi, je ne vois que cette solution. Sinon, nous allons vers la catastrophe.
Alors, le fait qu'il y ait, bon, relativement, mais il y a un cercle assez restreint de personnages autour de Bruno. Est-ce que c'est une manière de rendre le récit plus énergique, de couper un peu tout ce qui est, dispensable autour de cette histoire de Bruno ? qui est un peu le tronc d'arbre, en fait.
Oui, c'est toute l'énergie. C'est Bruno qui la tient. Et bizarrement, c'est un homme qui a peu d'énergie. Enfin, on le voit pas fort, mais quand même, il y a une espèce d'énergie, de trucs comme ça, très, très vibrant. Je crois que c'est aussi des restes, quand même, de mon travail d'introspection. C'est vrai que la dernière trace d'autofiction, elle est peut-être, justement, dans toutes les pensées les plus terrifiantes de Bruno. Au début, c'est une voix narrative, comme ça, qui est assez neutre et qui raconte qui il est, comment il vit, quel est son métier. Et puis après, les voix vont s'en mêler. Il y aura sa voix, il y aura aussi celle de Gilles, un petit peu celle de Marlène. Et le langage, pour moi, c'était très important. C'est un livre qui est très visuel, qui est très photogénique, où les décors existent vraiment, où on se rend très bien compte à quoi il peut ressembler, à quoi peut ressembler sa chambre, à quoi peut ressembler son box à l'usine, à quoi peut ressembler les scènes du port avec Gilles, ou sur les remparts, ou dans les bars, ou la maison de sa mère. Alors voilà, il y a, en effet, c'est une économie de tout ce qu'il y a autour, mais les personnages centraux, dont bien sûr Bruno, mais quand même, la mère est là, Marlène est là, Gilles est là, il y a quelque chose de très resserré autour de lui. C'est un huis clos, c'est une évidence, mais c'était important aussi pour avoir sa voix qui est assez folle. C'est vrai que moi, j'ai écrit ce livre en quelques mois à raison de 10 heures par jour avec cet homme. Et le soir, j'étais pas très bien. J'étais pas toujours très bien parce que... Et c'est là où je suis contente de l'effet du livre, parce que c'est un livre toxique. C'est un livre dont on ne ressort pas forcément indemne, peu importe la réaction. Mais en tous les cas, moi, quand je l'ai écrit, j'étais étonnée que cette rage et cette violence et cette colère soient en moi, parce que je suis quand même l'auteur de ce livre, mais chez moi, il n'y a aucun jugement moral. C'est-à-dire que Bruno, je ne le juge pas, je ne juge pas Marlène. C'est pas un livre sur les hommes, c'est pas un livre sur les femmes, c'est sur cette femme-là, sur cet homme-là, dans cette société-là. Alors, c'est une société, bien sûr, qui ressemble à la nôtre, mais ils sont singuliers. Ce sont vraiment des personnages de roman. Et c'est vrai que à la fin du livre, j'ai été assez... Alors, on ne sait pas, évidemment, bien sûr, d'où viennent les livres. Il n'y a pas de réponse rationnelle. Mais je voulais... Moi, j'étais totalement dans cette famille-là, très resserrée. Alors, il y a peu de personnages, mais ils sont tous très... ça grouille de sensations. Voilà, ce n'est pas un livre... c'est un livre qu'on commence, mais on n'est pas à la porte. Enfin, je l'espère, en tous les cas. Moi, j'ai voulu le faire ainsi. C'est-à-dire que j'ai voulu... par la violence, attraper mon lecteur et l'emmener dans ce voyage certes noir, certes sinistre, mais qui dit quelque chose de nous tous.
C'était justement la prochaine chose que je voulais vous demander, c'était est-ce que vous aviez pensé, en écrivant ou après l'avoir terminé, à l'effet que vous alliez produire chez votre lecteur, de la compassion, de la pitié ou toute autre chose ?
En fait, j'ai eu peur parce que c'était un risque, parce que j'ai cassé beaucoup de choses que je faisais avant, sans les renier, bien sûr, mais c'était un tournant absolument nécessaire dans ma vie d'auteur, parce que j'étais arrivée au bout de ma propre question. J'en avais fait vraiment le tour. Je ne dis pas que je n'y reviendrai pas, mais d'habitude, ce sont les auteurs, quand ils vieillissent, ils ont tendance à parler un peu plus d'eux-mêmes. Moi, je l'ai fait tout de suite plus jeune, donc j'en suis débarrassée, tant mieux. Et maintenant, je veux parler des autres. C'est très marrant. C'est beaucoup plus marrant parce qu'on est beaucoup plus libre. Se cacher derrière les personnages, c'est un truc très jouissif. On ne se rend pas compte. Alors, je sais qu'aujourd'hui, en France, parfois, on critique, on dit « Ah là là, ces auteurs d'autofiction qui se regardent le nombril », mais on ne se rend pas compte combien c'est violent après de parler de ces livres nombrils. C'est très violent parce qu'il n'y a pas de distance. Moi, avec Bruno, je peux mettre de la distance et je sais en quoi il me ressemble, mais personne ne peut le voir, à part moi. Donc ça, c'est plutôt assez... assez excitant. Et j'ai encore perdu le fil de ma pensée parce que je parle trop vite.
Non, mais donc vous parliez des personnages, se cacher derrière des personnages éventuellement, se révéler un peu à travers eux.
Oui, je vais. Voilà, c'était. C'est vrai que oui, la réaction, on disait la réaction des lecteurs. Et c'est vrai que j'avais peur parce que c'était un pari, c'était autre chose, c'était très différent de ce que je faisais. Même si on retrouve quand même des thèmes, si on regarde bien, Marlène peut être aussi la Diane de la vie heureuse. Ils ont quand même quelques stigmates, je trouve, en commun. Bruno aurait pu être le jeune garçon d'avant les hommes dans un pavillon avec sa mère, qui alors là, Bruno boit beaucoup, mais le garçon Jérémy d'avant les hommes fumait beaucoup de drogue. Et c'est vrai que j'avais très peur qu'on m'en veuille de parler ainsi d'un homme, qu'on pense que je fasse une sorte de règlement de compte avec les hommes. Ça, j'avais très peur de ça, parce que, je le redis, Bruno Kerjean a été moi et j'étais lui. Pour moi, c'était, voilà, on était en totale osmose et je n'avais pas du tout la prétention tout d'un coup de décrire la vie d'un pauvre type. Pas du tout, c'était pas du tout ça. Et puis, j'avais peur qu'on soit heurté par le côté cru. Mais en fait, finalement, non, pas du tout. Il y a une seule personne qui a été choquée, ça m'a très étonnée. C'est Yves Simon qui a dit « Je suis choquée, c'est vulgaire, je ne peux pas lire ça. » Et j'étais très étonnée et ça m'a fait de la peine parce que moi, je l'aime beaucoup, Yves Simon. Et je sais que il adorait mes autres livres. Et voilà, alors voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais oui, j'y ai pensé, mais... En fait, quand on écrit, on est très, je pense à mes lecteurs de façon très, c'est très flou. Je pense pas à une seule personne. Je pense, voilà, alors j'y pense dans le sens où je vais être la plus entendue possible, c'est-à-dire la plus simple. Et l'écriture est beaucoup plus lisible, je trouve, que certains de mes livres, précédents livres. Il y a quelque chose comme ça de très de proximité. Mais un livre, c'est aussi faire une bêtise dans sa chambre. Moi, je l'ai toujours dit. Sinon, ça sert à rien d'écrire. Et quand j'écris Standard, malgré voilà tous les doutes qui ont surgi bien avant l'écriture, mais quand j'étais dans cette écriture-là, je me disais, je suis en train de faire une bêtise dans ma chambre. Et je crois que à quoi ça sert d'écrire? Moi, en plus, c'est mon 14e. Oui, pourquoi un de plus? Évidemment, il y en aura plein de plus, et enfin beaucoup plus, encore plus et plus, parce que c'est mon métier, parce que j'aime ça, parce que c'est mon équilibre, parce que c'est ma passion, parce que c'est important. Mais parfois, il y a des livres inutiles. Et je trouve que quand on a l'impression de faire une bêtise, ça devient un livre utile et important.
Et vous seriez capable de vous dire à la moitié, ça vous est déjà arrivé d'abandonner un projet en plein milieu?
Bah oui, parce qu'avant ce livre, j'ai commencé 10 romans. Je me suis arrêtée à chaque fois à la page 20. Parce que c'était nul et que c'était une catastrophe et que heureusement je suis bien entourée, j'ai une lectrice qui me lit depuis 20 ans, qui est très proche de moi et qui peut accepter ma colère. Parce que c'est très dur quand on est un lecteur de dire à quelqu'un qu'on aime, de dire ah non là c'est pas bon, mais il faut lui faire confiance parce que c'est une preuve d'amitié et d'amour. Mais c'est vrai que pendant un an ça a été un cercle terrifiant où je pensais de devenir folle ou totalement, enfin folle non parce que je ne me suis pas, mais en tous les cas je commençais à me dire j'ai perdu mon métier parce que c'est mon métier, parce que c'est aussi c'est le métier qui me fait vivre, mais c'est le métier que j'aime, qui m'a choisi. Je pense que c'est lui qui m'a choisi et que j'ai un peu choisi quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'étais enfant. Je me disais qu'écrire c'était gagner une part de liberté que je n'avais pas quand je vivais en Algérie. Et voilà, les mots très vite que j'ai su maîtriser assez vite, à 8 ou 9 ans, m'ont procuré un plaisir infini qui ne m'a jamais quitté. Et c'est vrai qu'avant Standard, oui, il y a eu une dizaine de projets avortés, pas bons, mauvais. Et c'est là où je me suis dit, il y a un cycle qui se termine, il faut savoir l'accepter. C'est difficile, c'est comme une histoire d'amour qui se termine, mais l'amour renaît toujours. C'est ça qui est pas mal.
Et ça coïncide donc avec la mort de votre précédent éditeur, Jean-Marc Roberts. Ça change quelque chose d'avoir son premier lecteur qui va différer comme ça?
Qui va différer.
Je veux dire, vous allez changer d'éditeur, vous allez.
Mais c'est très étrange parce qu'en fait, quand Jean-Marc était malade, et puis quand il est mort, en effet, moi, je ne pouvais plus aller rue de Fleurus, je ne pouvais plus rentrer dans son bureau. Pour moi, il avait tellement. Pour moi, La Bleue, c'était tellement lui. On a été plusieurs auteurs dans mon cas. Chacun fait comme il voulait, et moi, je juge personne. Moi, j'avais peur qu'on prenne cela comme de l'infidélité de ma part. Pour moi, c'était une sorte de fidélité de partir, laissant à Jean-Marc tout le travail autofictionnel qu'on avait fait tous les deux. Et il est parti, voilà, comme le pharaon, avec plein de cadeaux dans les poches et tous les livres qu'on a fait, qu'il a fait avec d'autres. D'autres sont restés pour la bleue. Moi, je respecte le choix de chacun. Moi, je suis peut-être quelqu'un de trop sensible, de trop écorché, de trop sentimental. Je ne pouvais pas passer le seuil de son bureau alors qu'il n'était plus là. C'était le vide, l'absence. Voilà, un deuil, tout simplement. Puis un deuil... qu'on ne fait jamais, parce que c'est idiot de faire son deuil. Pourquoi ? Il n'y a pas de deuil à faire. Je pense qu'après les morts, vivons nous, et tant mieux, c'est ça. Et bizarrement, Flammarion, je retrouve Teresa Crémisi, qui était ma première éditrice pour La Voyeuse Interdite, mon premier livre, qui m'a fait rencontrer Alix Penant, que vous connaissez, qui est une fabuleuse éditrice. Et c'est vrai que moi, j'étais un petit peu, quand je suis arrivée chez Flammarion... J'étais pas en très grande forme et je suis arrivée avec ce manuscrit sous le bras, ne sachant pas trop ce qu'il valait. Et en fait, j'ai retrouvé une maison, j'ai retrouvé de la tendresse, de l'écoute, de l'affection. Et ce qui est très important, parce que finalement, ce n'est pas le plus dur métier du monde que nous faisons. Je trouve que c'est un métier quand même très agréable et assez tranquille normalement. Mais quand même, on a besoin, quand on dit une maison d'édition, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On a besoin d'une maison, on a besoin d'un toit sur la tête, on a besoin d'être entendu. Et justement, quand, pour l'avenir aussi, quand l'écriture ne vient pas toujours.
Et alors, est-ce que vous avez un projet sur le feu en ce moment ?
Bah oui, 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 j'ai même deux projets sur le feu. Voilà, qui sont, ce sont des romans. Et justement... aujourd'hui est le dernier voyage que je fais pour Standard. On s'est beaucoup promené avec Bruno Kergen en France et je suis très contente de terminer par Bordeaux puisque je n'y étais pas revenue depuis La Voyeuse Interdite, c'est-à-dire depuis 91. Donc ça fait très très longtemps.
Ah oui, voilà. Le premier livre.
Voilà. Et j'ai hâte d'écrire. J'ai un projet qui est déjà bâti, mais qui n'est pas construit. Et j'en ai un autre qui est dont je connais le sujet.
Bon, bah, merci beaucoup, Nina Bouraoui. C'est Standard chez Flammarion.
Merci à vous. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci.